Voilà, ce matin, j'avais envie de vous partager un message qui peut-être va un peu dans la même ligne. Bon, c'est la première fois que je le donne, alors on va voir ce que ça donne. Et je suis retourné à faire en manuscrit, c'est sympa aussi. Avec un truc qui est un peu cher, quand même, Oxford, mais Oxford, c'est sympa. On ne trouve plus les top budgets à Intermarché chez nous, les trucs bleus, là, à 1,25. Alléluia. Non mais voilà, alors c'est sûr qu'en début d'année, on a beaucoup de choses qu'on souhaite, et peut-être que ce message peut se caler dans, on espère, dans un message d'encouragement pour nous tous, au travers d'un texte. Je donnerai le texte tout à l'heure. Et j'aimerais un petit peu vous parler du livre des juges. Vous avez déjà lu le livre des juges ? Ouais, levez la main, dites le jure. Non. Voilà. En fait, quand on lit le livre des juges, c'est quand même un livre un peu déstabilisant quand même. Pas mal de choses qui se passent. Même les juges eux-mêmes sont des personnages parfois héroïques, mais un peu inquiétants pour certains. On se demande si c'est des héros ou si c'est des mercenaires. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose dans ce livre des juges, dans l'ensemble, hein. On va voir après, je vais m'arrêter sur quelques versets. Il y a quelque chose, je crois, de prophétique par rapport à ce que le monde vit aujourd'hui. Dans le sens que le monde vit des temps déstabilisants partout, et il y a une nouvelle donne, particulièrement avec la guerre en Ukraine, qui change complètement l'échiquier international. Et on n'a pas fini de voir le nouveau modèle, le nouveau archétype qui va se dessiner. Alors là, le livre des juges, pour parler du contexte, ça s'est passé après la conquête de Canaan, lorsque Josué, Caleb, les princes sont entrés, et puis finalement ils sont rentrés en Canaan. Et puis ce livre des juges se cale entre cette conquête de Canaan et avant la royauté. Premier roi qui était Saül. Et puis la période, en fait, elle est assez longue malgré tout, 311 ans. Vous voyez, quand on lit les textes bibliques, souvent, on ne s'imagine pas 300 ans d'histoire de livre des juges. Alors, c'était qui, finalement, ces juges ? Parce que, en fait, ce matin, ce que j'aimerais, c'est que vous vous identifiez à ces juges et peut-être que vous preniez leur mission sur votre dos et que vous entriez en 23 avec ce profil un petit peu des juges dans une situation qui est autour de nous, peut-être qui est en vous, qui est déstabilisante et quand même quelque part inquiétante, mais où le Seigneur veut apporter une espérance. Ces juges, c'était des grands guerriers charismatiques. Ils avaient plusieurs qualités. On disait d'eux que c'était des libérateurs. On disait aussi d'eux que c'était des héros nationaux. Donc ils avaient une envergure nationale. Bon, c'est sûr que le contexte national à l'époque n'était pas aussi vaste et complexe que nos nations géopolitiques, mais quand même. C'était des sauveurs, on disait que c'était des sauveurs aussi. On disait d'eux que c'était des héros des batailles. Il y a quand même un gars, il n'avait pas de cholestérol celui-là, je ne pense pas qu'il faisait, il avait du diabète ou quelque chose comme ça, et je ne pense pas qu'il faisait de la musculation, mais il a tué 600 personnes avec un, je ne sais plus trop quoi, un juge, avec quoi ? Et avec une mâchoire. Alors je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un conte ou est-ce que c'est la réalité ? Héros des batailles, on les appelait, c'était des chefs militaires, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, c'était des combattants spirituels. Donc ils étaient plusieurs, juste pour les définir un petit peu. Quelle était la fonction de ces juges ? Ils avaient plusieurs, ils avaient quand même un cahier de charge assez important, plus ou moins le même, plus ou moins prou ou peu le même, selon qui était juge. Ils étaient responsables de fournir des jugements. Alors c'est en termes plutôt juridiques, hein, c'est pas le jugement... mais sur une équité, c'est pour ça qu'on les appelait des juges. Ils exerçaient la justice, ils maintenaient l'ordre. Ça, c'est quelque chose que peut-être on pourrait souligner. Ils maintenaient l'ordre dans des contextes de crise importantes. Je crois qu'aujourd'hui, si on réfléchit partout autour de nous, à gauche, à droite, on a peut-être un rôle de maintien de l'ordre. Je ne parle pas d'être policier avec un bâton, hein. Mais des mainteneurs d'ordre. Ils collectaient les impôts aussi. Ça, c'est moins bonne nouvelle. Après, on est tous citoyens. Hein. on les paye avec joie, on sait que ça sert à quelque chose. Ils dirigeaient, ou ils concluaient, ou ils arrangeaient des alliances temporaires entre des tribus d'Israël, s'il y avait les tribus d'Israël. Ils avaient souvent des dons d'organisation pragmatique. Bien sûr, ils avaient des rôles en temps de crise. Alors les crises étaient spirituelles, c'était souvent mélangé, spirituel, social, politique. Et puis ce que j'ai découvert, pas dans la Bible, mais dans les recherches, c'est qu'ils n'étaient pas forcément choisis pour leur vertu, parce qu'il y en avait quand même, c'était des drôles de gaillards, hein. Mais ils étaient choisis parce qu'ils avaient des capacités et des habiletés à un moment donné pour intervenir de la part de Dieu. C'était intéressant. Certains étaient prophètes, Déborah était la seule juge d'ailleurs, qui était prophète et juge aussi. Et puis bien sûr, voilà, ils intervenaient dans les temps de crise sociale, spirituelle et politique. Et puis ils avaient un trait de caractère, tous ils avaient ce trait de caractère, ils étaient audacieux. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, nous avons besoin de gens audacieux, des gens courageux dans les moments de difficulté. Bon, je ne sais pas comment vous regardez la situation autour de vous, hein. Peut-être vous vous disiez, bah là, c'est assez cool ce qui se passe en France, dans le monde. On est un peu quand même en ligne de crête, je trouve, quand même, hein. On est dans des sujets sociétaux, des sujets internationaux, hein, militaires un peu quand même périlleux, des questions de ressources, des questions d'écologie. Voilà. Alors, j'en prends quelques-uns des juges, là. Ce qui est intéressant, c'est que il y en avait un, Othniel, c'était un des juges. Lorsqu'ils intervenaient, et lorsque leur mission était terminée, souvent le fruit après leur mission, c'est qu'il y avait plusieurs années de paix. Il y avait un équilibre qui était retrouvé après leur intervention. Et après cet homme Othniel, il y a eu 40 ans de paix civile dans le pays. C'est quand même pas mal, hein. Là, on bénéficie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe de l'Ouest, on est obligé de le dire maintenant, Europe centrale, Europe de l'Ouest, depuis 45 ans, une paix civile. Et on sait que la guerre, lorsqu'il y a une guerre, ça détruit tout, il faut tout reconstruire. Mon père disait souvent, tu sais, il faut tous les 60 ans une bonne guerre pour tout recommencer. J'ai dit, papa, quand même pas évident, hein. Par exemple, quand on pense au Rwanda, ce n'était pas une guerre, mais c'est une guerre civile quand même. Encore aujourd'hui, c'est dur à remonter. Il y avait un gars, par exemple, un autre juge qui s'appelait Ehud. Il était gaucher comme moi, les meilleurs, bien sûr. Non, je blague. Hein. Barack Obama, il était gaucher aussi. Hein. Je dis en. Hein. Bon, à l'école, vous savez, moi, j'étais vraiment le dernier. J'étais près du radiateur. Je n'aimais pas trop l'école, donc je ne me faisais pas remarquer. Je ne pense pas que je faisais partie des orgueilleux. Ou alors, j'étais très modeste dans l'orgueil, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je me venge un peu maintenant. Non, mais je blague. Donc Ehud, eh ben, c'était un gaucher, et puis lui, il a tué un roi qui était gros et gras, qui s'appelait Eglon. Hein, il s'est fait une dague qui mesurait un coude, et puis il lui a dit, j'ai un secret à te dire, et il l'a tué, et apparemment, voilà, cet homme était plein de cholestérol, parce que la poignée de la dague s'est enfoncée, et la chair se refermait par-dessus. Alors dans la Bible, quand même, il y a des trucs, quand on lit, ça fait un peu crado, hein, hein. Voilà, il y a des, voilà. J'aime bien. Dans un certain sens, il y a une réalité, mais pas que ça quand même. Pas que ça. J'aime bien quand Dieu est un cœur de père, qui me dit qu'il m'aime, qui nous connaît par notre nom. On l'a dit plusieurs fois tout à l'heure. Gédéon, on va venir sur lui tout à l'heure. Déborah, une prophétesse. Elle devait avoir du carafon. On en a besoin aussi. Elle a été juge pendant 40 ans. Ouf. À l'époque, c'était pas mal quand même, parce qu'on vit normalement. Il y en a qui ont vécu jusqu'à 600 ans, apparemment, 110 ans. Quand même 40 ans, comme Jérémie, 40 ans de ministère. Abimélec, Tola, un autre juge qui a été juge pendant 22 ans. Il y en avait un autre qui s'appelait Ibsan. Donc il y a des juges, je vous donne ces noms, peut-être ça ne vous dit rien, parce qu'il y en a qui ont été haut en couleur, comme Gédéon et Déborah, puis d'autres qui sont passés un peu, on va dire, dans le people un peu lambda. Abdon. Jephté aussi, hein, il a fait une belle bêtise, lui il a promis sa fille s'il allait avoir la victoire, et il a fait une belle erreur, Samson. Voilà, en tout cas, certaines listes des juges, et ils ont eu un mandat pendant pratiquement ces trois siècles. Pourquoi je parle des juges ce matin? Alors, je vais faire un petit peu un rapprochement, et après on va venir au texte biblique. Vous savez, en Afrique, ils n'aiment pas les frères africains quand on ne prend pas la Bible. parce qu'ils aiment bien quand même que, bon, la parole de Dieu, alors en général, ils aiment bien, et j'ai remarqué qu'ils ont très très bien mémorisé les versets bibliques, souvent beaucoup plus que nous. Pourquoi le livre des juges, je l'ai choisi ce matin ? Parce que ce sont des temps qui ressemblent un peu au temps d'aujourd'hui, donc des temps d'instabilité, des temps où il n'y avait pas de roi. En même temps, fallait-il un roi ? Parce que ça, c'est un autre sujet, il y a eu des rois après. Mais les rois apportaient une certaine stabilité aussi. Il n'y avait pas de roi. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, les rois, ou les petits roitelets, sont devenus peut-être les médias ou les réseaux sociaux qui veulent peut-être un peu trop souvent dicter la conduite. Et c'est un peu compliqué, parce que dans le temps, il y avait la chaîne TV numéro 1, numéro 2. Maintenant, il y a une multitude, et ce n'est pas évident. Chacun dit un peu trop, peut-être subjectivement, et peut-être un peu trop facilement ce qui lui semble bon. Vous savez, le dernier verset des juges, c'est dans Juges 21-25, je crois. Il est dit, du temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un peu ça aujourd'hui, hein. Parce qu'on a accès aux technologies, on se prend un petit peu pour des porte-paroles sérieux, et souvent c'est assez subjectif pour finir. Et puis on voit aussi qu'au travers des médias, des réseaux sociaux, que beaucoup se sont revêtus peut-être, je vais être un peu méchant, hein, d'un manteau prophétique qu'ils n'ont peut-être pas reçu de la part de Dieu. Vous avez remarqué ça des fois ? Il y a beaucoup de subjectivité quand même, beaucoup de messages, on ne sait plus trop à qui croire. Comme du temps des juges, des temps violents aussi dans les relations civiles, dans les relations les uns avec les autres, on vit aujourd'hui des temps où découdre coûte que coûte est une vertu, est devenue malheureusement une valeur, et une valeur qu'on dit radicale. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à cela. Un temps de confusion, du temps des juges, un temps de division, on le voit aujourd'hui, un temps de fracture sociale, spirituelle, nationale, ethnique. Le racisme, l'antisémitisme. Un temps d'indépendance aussi. Un temps de délation, c'est-à-dire qu'on va parler sur les gens. Et j'ai envie de dire, nous avons besoin de juges qui soient des stabilisateurs aujourd'hui. Et je fais appel à vous. Je fais appel à vous, je fais appel à moi. On vit, comme du temps des juges, un temps de crainte. Il y avait un temps de crainte parce que Madian était une puissance qui les oppressait constamment. Vous voyez ? Pas de roi, pas de chef. Chacun fait ce qui semble bon. Les tribus parfois se battaient entre elles. Il y a eu même une guerre civile au sein d'une tribu, quasiment presque détruite, la tribu de Benjamin. Temps de confusion, de division, de fracture, d'indépendance, de délation. Un temps de crainte, d'angoisse, mais aussi de peur. On voit ça aussi. Puis un temps de culpabilité. Pourquoi je dis ça ? Ben, je pense que l'Europe de l'Ouest, tout comme nous, on se sent un peu coupable de voir une Ukraine détruite, qu'on arme, parce que, bon, voilà, pour éviter peut-être une guerre nucléaire, mais c'est difficile à vivre, il faut reconnaître, pour les citoyens, c'est difficile. C'est un peu déstabilisant tout ça. On intervient sans intervenir, et on a ces braves frères qui se battent pour leur liberté. Alors je viens au texte, c'est dans Juges 6, versets 25 à 32, parce qu'on ne va pas tous les prendre, hein, les braves juges. Oh, ils ne seront pas jaloux entre eux, hein. Ils ne vont pas venir me voir pour dire « t'as pas parlé de moi ». Juges 6, versets 25 à 32. Alors là, je mets l'accent sur le juge Gédéon, mais je ne vais pas tout parler de lui, je ne vais pas parler de la toison où il a demandé à Dieu des signes, je ne vais pas parler des 300 personnes avec qui finalement il a combattu. Je vais parler d'un seul passage. Juges 6, 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau. Tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent alors l'un à l'autre, qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville sont sortis. Et ils dirent à Joas, Joas est leur père, c'est le père de Gédéon, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré dessus. Et Joas répondit, son père, à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide pour lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. C'est un texte extrêmement fort parce que Gédéon est à la veille d'une grande victoire contre Madian avec 300 personnes. Et il y a plusieurs choses là qu'on pourrait parler, qu'on pourrait mélanger. Et j'ai essayé de voir si Dieu a pas quelque chose à vous dire. L'éternel Dieu, Dieu lui-même, demande à Gédéon de renverser l'autel que son père a bâti au nom de Baal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque, plus que maintenant, honorer ses parents était quelque chose d'extraordinaire. C'est le cinquième nom. Tu honoreras ton père et ta mère, car de cet honneur, la vie coulera de toi et toi pour tes enfants. Et l'Éternel lui-même est en train de dire à Gédéon, « Je suis supérieur à ton père. Je suis supérieur aux traditions de ta famille. Je suis supérieur à ce que ton père est en train de faire et tous les autres sont en train de faire. Je suis supérieur à tous ces gens qui se sont inclinés devant Baal. » Parce qu'à cette époque-là, Baal était adoré. C'est la grande bataille en Israël. Et avant d'entrer dans la bataille, qu'est-ce que Dieu demande à Gédéon ? Bâtis un autel en mon honneur et renverse l'autel de son père. C'est très fort, hein ? Pourquoi ? Et on le voit que c'est très fort parce qu'on va penser même que Gédéon est en train de désobéir et de dire « Mais tu n'honores pas ton père et ta mère. » Mais en réalité, l'honneur que Dieu demande à Gédéon pour l'Éternel lui-même doit être supérieur. Et c'est Dieu qui demande à Gédéon de le faire. Et j'aimerais nous poser la question, mes amis, parce que c'est ce que j'ai vécu ces deux dernières années, douloureusement, et ce n'est pas fini. Lorsqu'il y a des traditions dans nos familles, traditions nationales, traditions dans nos familles qui sont plus fortes que le nom de l'Éternel, à un moment donné, l'Éternel dit « renverse cet autel pour rentrer de nouvelles voies ». Parce que nous n'avons pas été sauvés par la tradition de mon père, mais par le sang de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont ici et qui viennent du continent en Afrique, ils savent de quoi je parle. Et Gédéon va le faire de nuit, parce qu'il a peur, avec 10 hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai été stupéfait. Les gens de la ville sont fâchés, parce que les gens de la ville, eux aussi, font comme le père. Parce que le père, à cause de son influence, à cause de son aura, à cause de sa grandeur, à cause de son leadership, il a influencé des personnes, jusqu'à tous à Doribal. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont dire, ils vont dire au papa, ton fils, il t'a trahi. Ton fils t'a déshonoré. Il faut le tuer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que le père, il est en train de dire, finalement, si vraiment Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Qu'est-ce qu'il y a important, là, mes amis, à la veille d'une victoire ? En 2023, il y a des nouvelles étapes pour nous. Peut-être que le Seigneur est en train de nous remettre sur les calepieds pour un nouveau départ, pour rebâtir un autel. Mais le père lui-même, à cause de l'obéissance de son fils, va abandonner Baal. Et j'aimerais vous dire, ne sous-estimez pas les actes d'obéissance. Lorsque vous obéissez, vous allez être surpris de voir des gens qui n'ont pas eu le courage, qui n'ont pas eu l'envie, qui n'ont pas eu l'audace, mais qui vont vous suivre. Vos actes d'obéissance vont dévoiler des gens autour de vous qui auront le courage de faire des actes qu'ils n'auraient jamais faits. Et l'Éternel, et et Gédéon va renverser l'autel de son père. On voit des puissances là, à ce moment-là. Je parle de puissance spirituelle. Il y a une puissance d'intimidation à ce moment-là, qui est générale, qui est dans la ville, où ils n'avons pas le droit de quitter ce Baal. Et pourtant, ce sont tous des Israélites. Il y a une puissance d'intimidation, une puissance qui est liée à la culture, une puissance qui est liée à la tradition, une puissance qui est liée à l'héritage. L'héritage familial, il y a des bonnes choses dans l'héritage familial. Mais est-ce que dans nos vies, il n'y a pas des choses que nous n'osons pas abattre parce que papa a dit cela, parce que ma nation a dit cela, etc. Il y a 3 ans de cela, j'ai fait une expérience un petit peu traumatisante. J'étais avec un ami qui a un don prophétique. C'était en début d'année. Et on s'était dit comme ça, on n'a qu'à prier l'un pour l'autre en début d'année. Et puis on prie, et puis on ferme les yeux. Et il me dit, écoute, je vais te partager quelque chose qui est un peu choquant. Et il me dit, je vois un cimetière, je vois des ancêtres de chez toi. Alors, je ne sais pas si c'était mon père est mort, je ne sais pas, mais en tout cas des ancêtres. Et ils étaient là, et avec des voix, ils t'appelaient pour les rejoindre. Viens avec nous. Mes ancêtres ne sont pas chrétiens. Hein. Viens avec nous. Et il a eu cette vision, quoi. Et ça m'a fait frémir, quoi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà dépassé largement 50 ans, et j'étais en train de me rendre compte que l'héritage que Dieu ne bénit pas, l'héritage d'éthélisme, l'héritage de sorcellerie, l'héritage de mort qu'on a dans notre famille était en train de venir vers moi et me disait « viens avec nous ». Et je le concrétisais dans ma vie avec des nouveaux combats que je ne pensais que jamais que je n'aurais eu, jamais. Et je suis encore dans ces combats-là. Puissance de mort. Pour entrer dans une nouvelle saison. Quel que soit l'âge que nous avons peut-être des autels qui doivent être encore renversés, des choses que nous n'avons pas eu le courage de faire, des façons de penser. Parfois, dans notre famille, il y a des gens qui ont un caractère. Mon père était colérique, j'étais colérique, etc., etc. Ça peut être de la sorcellerie, ça peut être parfois au niveau, par exemple, de la façon dont on gère l'argent, des traditions qu'on a continué de garder avec nous qui nous empêchent de continuer malgré le fait qu'on est au culte. Il y a des étapes comme ça, il y a des saisons. Le Seigneur, à un moment donné, il va profond, et arrivé à un certain âge, il va peut-être un peu plus profond. Et nous n'avons pas terminé. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime et nous change encore constamment. Quelles sont les questions d'héritage dans nos vies ? Et j'aimerais vous dire encore une chose, ça c'était un peu prophétique. Hein. On va être testé dans quelque chose qui est très fort. C'est le regard que nous avons sur les nations. Est-ce que nous avons un héritage dans nos familles d'antisémitisme ? Je connais un frère qui s'est rendu compte qu'il n'aimait pas les juifs. On a dû briser les liens par rapport à cela. Parce qu'il s'est rendu compte que sa famille avait une haine contre les juifs. Héritage, la haine contre les étrangers. Qu'en est-il de notre héritage ? Voyez ? Qu'en est-il de notre héritage ? La haine contre les étrangers. Et puis, Gédéon était dans l'intimidation. Nous sommes dans des temps aujourd'hui d'intimidation. Il nous faut nous lever, il nous faut briser la crainte. Plusieurs fois, je ne dis pas forcément en termes de prière, mais en termes d'action, en termes de réflexion, en termes de pensée. J'ai lutté régulièrement ces dernières années, vraiment depuis 3 ans, que j'allais mourir. Que j'allais mourir, physiquement, hein. Que j'allais mourir, que ma vie allait s'éteindre. Esprit de mort qui est dans ma famille. Esprit de suicide. Et là, Gédéon, ah, c'est formidable, hein. Son père, il va prendre sa défense. Gédéon va briser une malédiction. Réconciliation du père et du fils. Bâtir ensemble un autel pour l'éternel. Et on dégomme Baal. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Hein, parce que les juges, des fois, ils faisaient des belles choses. Puis après, l'obéissance de Gédéon a transformé le tissu social autour de lui. Pas seulement son père. Parce que son père avait de l'influence. Alors je terminerai avec ça pour conclure, peut-être en lisant ces textes. Effectivement, si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même, on va voir. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Mes amis, lorsqu'on commence quelque chose de nouveau, parfois, comme du temps d'Élie, il faut reprendre des pierres, peut-être parfois prendre des vraies pierres et rebâtir un autel à l'Éternel. Faites-le pour de vrai. Ça vaut vraiment la peine. Hein. Quelques pierres. Est-ce que vous ne devez pas rebâtir un autel à l'Éternel ? et laisser le Saint-Esprit purifier des choses à différents domaines. Est-ce que vous êtes dans une saison, parce que c'est facile de l'être aujourd'hui, où nous sommes intimidés? Intimidés par les circonstances, intimidés par le manque d'argent, intimidés parce qu'il y a des besoins, intimidés par ci, intimidés par cela, intimidés parce qu'on pense qu'on va manquer dans les supermarchés, qu'on va manquer au niveau de l'énergie, qu'on a peur de la guerre. Une chose tellement pédagogique que j'ai toujours trouvée avec Dieu, qui est une puissance, et que Paul le dit, oubliant ce qui est derrière, marchons vers l'avant. Peu importe le climat et tout ça. Marchez en avant, laissez ce qui est derrière. Regard neuf, héritage neuf. Et j'ai remarqué, vous serez étonné, comme Gédéon a certainement été étonné, que votre acte d'obéissance, même si vous paraît, ici paraît fou pour les autres, c'est ça qui va faire la différence. L'acte d'obéissance va libérer la révélation dans votre vie. Mais vous verrez le nombre de personnes qui n'ont pas eu le courage de le faire, de vous dire, mais on est d'accord avec toi. Ouais, tu as osé le faire, alors on va le faire derrière toi. Soyez des juges en Israël. Soyez des juges en France, des pôles de stabilisateurs. Des gens qui créent des liens entre les tribus. Des gens qui cherchent la justice. Des gens qui encouragent, qui enseignent à ce que les uns et les autres ne se tournent pas vers des dieux de chimère. Des dieux qui ne servent à rien. Tout ne va pas être parfait. Et une dernière chose que je vois, et ça c'est partagé aussi, pas forcément dans les milieux chrétiens, et quelqu'un le partageait tout à l'heure, je crois, c'est que les Français sont fatigués. Il y a un poids sur notre pays. Il y a eu la Covid. On s'est dit, la Covid, on est ressorti. Maintenant, on est dans une incertitude avec ce qui se passe au niveau international. On est un peu comme ça. Hein, c'est pas très évident. Et donc, il y a une peur. Il y a un poids. Et ça, mes amis, il faut le briser. Il faut se laver. Il faut rebâtir un autel. Seigneur, quelles que soient les circonstances qui seront devant nous, nous savons qu'à cause du Seigneur, parce que tu as dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur, et dans ces circonstances-là, il va vous aider. Les juges et les prophètes ont toujours, toujours été utilisés en temps de crise sociale, spirituelle, politique, bien qu'ils n'étaient pas forcément dans la politique, bien évidemment, pour apporter une parole d'espérance, une parole de vie. Que nos réseaux sociaux soient remplis d'autres choses, que nos paroles soient remplies d'autres choses, que nos vies soient remplies d'autres choses. Et je peux vous dire, c'est un combat, parce que je vous l'ai témoigné, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fait 3 ans que je me bats avec ça, avec l'héritage qui revient de ma famille, des choses mauvaises, avec un sentiment que ma vie va se terminer alors que je suis sur la soixantaine, quand je regarde autour de moi, ça me plombe, mes amis. Et j'ai dit au Seigneur, mais tu as certainement autre chose à dire, à collecter, à rassembler. L'Ecclésiaste disait, l'Ecclésiaste s'est efforcé de rassembler les conseils, de rassembler les bonnes pensées comme des clous qui venaient de l'Éternel pour les partager. C'est le temps de Gédéon pour nous, pour 2023. Pensez cette semaine, je veux rebâtir un autel, Seigneur. Et montre-moi, il ne faut pas faire de l'introspection, mais montre-moi les choses dans ma vie qui sont là, à côté de moi, où je me suis habitué, des façons de penser, et je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus faire cela, je veux avoir la pensée de Christ pour l'avenir. Amen. Que le livre des juges, même s'il est étonnant, et on peut s'identifier, les juges n'étaient pas parfaits, ils avaient ces sacrés caractères, ils étaient parfois un petit peu inquiétants quand même, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a dit d'eux que c'était des libérateurs, des héros nationaux, des sauveurs, des chefs militaires, des combattants spirituels. Alléluia. Amen.